Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission du mercredi 3 novembre. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Nous sommes toujours tous les deux chaque semaine pour 30 minutes de cinéma avec aujourd'hui beaucoup d'actu. Alors normalement on devrait avoir un invité mais on l'attend.
Voilà, pour l'instant il n'est pas arrivé, j'espère qu'il sera là pour défendre un peu son événement, mais sinon ça me donnera l'occasion de parler un petit peu de documentaire. Voilà, ce sera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est toi qui va commencer.
Eh bien oui, et moi j'ai préparé deux sujets qui concernent l'Italie. On écoutera en toute fin d'émission la réalisatrice de Dracula, le dernier documentaire de Sabrina Gunzanti sur Berlusconi. Et puis tout de suite, on va commencer avec un autre film qui se passe en Italie.
He is the American.
I don't think God's very interested in me, Father.
Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit bien du vendeur de café qui revient sur les écrans, George Clooney. Anton Corbijn, d'abord réalisateur de clips, avait frappé fort avec son premier long-métrage, Control, qui était une plongée en noir et blanc mélancolique dans la vie du chanteur de Joy Division, Ian Curtis, qui s'est suicidé à l'âge de 24 ans, au début de sa gloire. Alors pour The American, il adapte le roman de l'anglais Martin Booth, A Very Private Gentleman, pour nous donner à voir un thriller contemplatif. Si ça fait boum boum, s'il y a du suspense, ça n'est pas pour autant la réussite du film et ça ne contentera pas les fans des productions chargées de testostérone de Besson. The American est une vraie adaptation, puisque dans le roman, le personnage interprété par Clooney est un Anglais excentrique, et qu'ici, il est américain et plus vraiment excentrique, juste secret et décalé. Jack, ou Edward, c'est selon, est mêlé à une organisation mafieuse dont le rôle est de tuer sur commande. Un tueur à gages, sûrement, mais surtout un artisan du fusil. Il les prépare selon un cahier des charges précis, comme un artisan. Alors le début du film est assez troublant, hein. C'est un prologue, un gros prologue, hein, même 5 minutes avant que le générique ne tombe. Nous sommes en Suède, la neige à perte de vue, Clooney est dans une maison chauffée par une cheminée reposante, une femme est nue sur le lit à la manière de Bardot dans Le Mépris. Lui, on a déjà l'impression qu'il n'est pas forcément à l'aise, alors ils sortent pour une balade et là c'est le drame, alors je n'en dirai rien. En tout cas, il doit fuir, direction l'Italie, pas l'Italie du Sud, mais les Abruzzes, région montagneuse, que Corbijn filme en surexposition. C'est son étrange commanditaire qui l'envoie là-bas, Clooney, en lui disant de ne pas se faire remarquer, pas se faire d'amis et d'attendre qu'on lui passe commande. On entre ici dans un film qui va se jouer des clichés. Notre homme solitaire est super balèze. Dès qu'on essaie de le tuer, il se défend rudement bien. Il va rencontrer une prostituée, figure de l'italienne brune, plantureuse, légère, qui va l'éveiller à la vie. Alors pour Jack, une seule obsession, rester vivant, se méfier de tout le monde et surtout raccrocher. La commande qu'on lui fait devra être la dernière. Il partage ses moments entre nature, conception de fusils silencieux, baston avec des tueurs à ses trousses et moments sensuels. Corbijn filme d'ailleurs les scènes d'action avec la même méticulosité que les scènes d'amour. Alors cliché, disais-je, oui, le type qui rencontre une prostituée, y voit l'espoir d'une vie meilleure et annonce que c'est son dernier contrat, voilà qui est assez convenu. Alors, The American aurait pu être un film d'action à la Jason Bourne, dans un décor italien, avec une pincée de sensualité, mais il n'en est rien. La légèreté, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ici, on nous place face à l'intranquillité. Le Jack, interprété par George Clooney, peut devenir épuisant, même à force d'être sur ses gardes. Il est l'attention, le suspense à lui tout seul. Alors même dans les moments de sensualité dont je vous parlais, on a peine à le sentir serein et la prostituée qui tente des cris de plaisir se fait tout de suite rembarrer une fois l'acte accompli. Et Clooney, enfin Jack, le personnage, dit « Tu n'es pas obligé de jouer, je suis venu pour prendre du plaisir, pas en donner ». Et c'est peut-être là que se situe le parti pris du metteur en scène. La première scène du film nous engage dans un thriller, mais tout le reste désamorce patiemment cette attente du spectateur. Non, il ne verra pas un film qui va lui en mettre plein la vue avec des morts et des courses-poursuites. Enfin, là, il y en a quand même une avec un scooter. Le réalisateur ne donnera pas ce plaisir. Son but est bien de contourner le thriller pour nous laisser errer dans les abruzzes avec cet homme tourmenté qui se demande quand tout cela va finir. Alors, il y prend du plaisir, Corbin, avec un clownet qui n'est pas un héros sûr de lui, mais toujours aux aguets. Il y prend du plaisir en n'étant pas raccord avec le guide touristique des Abruzzes. Et plutôt que de choisir une lumière chaude, on est quand même en Italie, eh bien, il nous propose une lumière froide quasi surexposée. Alors même le petit coin que trouve Clunet au bord d'une rivière n'est pas l'occasion d'un bon pique-nique doublé d'une sieste, mais c'est l'endroit parfait pour s'essayer au tir. Alors ce film aurait pu peut-être gagner en force si Clunet n'avait pas interprété le rôle de Jack, même si c'est finalement amusant de le voir commander des cafés à longueur de journée et de voir le regard qu'il lance aux femmes. Place de la femme centrale, car c'est l'horizon de Jack. Alors la mise en scène est impeccable, le début et la fin sont superbes, et je dois dire que je préfère voir ce The American qui s'amuse du thriller classique que le dernier Jarmusch de Limit of Control qui s'en distance au point de devenir une démonstration désabusée. Voilà, The American de Anton Corbin avec le grand George Clooney. C'est au cinéma Diagonal en version sous-titrée et puis aussi au Gaumont et Méga CGR en version française.
Voilà, alors on va accueillir notre invité qui est arrivé dans les studios donc pour nous parler un petit peu.
Bah, dès qu'il aura fini de déjeuner, parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait fini hein, de ce côté-là.
D'accord. Donc, je vais déjà présenter très rapidement. Donc voilà, c'est les rencontres cinéma documentaire Combat et Liberté. Donc cette année, c'est la deuxième rencontre cinéma documentaire, un événement qui est organisé par l'Access. Voilà, Soumaïla Colli, notre invité, rentre dans les studios, s'installe pour nous parler un petit peu de ces rencontres. Du doc, alors plusieurs films qui cette année s'intéressent à notre rapport à la planète, puisque le titre c'est Documentaire TE2RE. Bonjour Souma.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement cet événement qui se passe du 3 au 27 novembre, donc qui commence aujourd'hui?
Oui, en fait, comme tu l'as assez bien présenté, c'est des rencontres cinéma-documentaire qui coïncident aussi avec le mois du film documentaire qui se déroule au mois de novembre. Et donc, cette année, la thématique, c'est les questions d'environnement et de la biodiversité. On essaye de passer des documentaires qui traitent de ces thématiques-là en organisant aussi des débats après les projections. Donc, il y aura beaucoup de réflexions sur le rapport à la Terre, le rapport à l'environnement et puis les catastrophes naturelles.
En fait, sur la sélection, on va parler un petit peu des films qui sont programmés. Moi, je vois deux thèmes principaux. Il y a d'un côté la nourriture, avec des films comme Super Size Me, Notre pain quotidien, We Feed the World. Voilà, notre rapport à la nourriture, qu'est-ce qui est devenu l'alimentation.
Et l'industrie agroalimentaire.
Et l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Donc, l'un des films, c'est Super Size Me de Morgan Spurlock, qui était sorti en 2004. Donc, un film investigation un peu suite à des procès qui avaient été intentés par des clientes devenues obèses contre McDonald's. Et voilà, elles avaient été déboutées faute de preuves. Donc Morgan Spurlock a voulu en savoir plus sur quel danger représentait la nourriture servie dans les McDonald's. Et donc il s'est proposé pendant un mois de ne manger qu'à McDo, de ne plus faire d'exercice comme beaucoup d'Américains, de prendre à chaque fois qu'on lui proposait également la portion Super Size Me. Je vous propose d'écouter un petit extrait, c'est juste après son premier menu Super Size.
À ce stade du repas, on a le Mac mal au ventre, on a l'estomac plein de Mac gargouillis, on est Mac dérangé, c'est le Mac bobo du ventre, j'ai des Mac gaz, ça déménage.
Tu transpires ?
J'ai mes Mac sueurs, je sens des Mac fourmis à cause de tout ce sucre ingurgité. Je me sens devenir Mac dingue.
Just give me a minute.
Attends.
Bienvenue au paradis McDonald's.
Documentaire plutôt amusant, hein, parce qu'il se met en danger, enfin, c'est ce qu'il explique, il se met en danger. Et à noter qu'aux États-Unis, on a le droit avec le menu XXL à 1 litre de coca. Alors paraît-il...
2 litres de coca.
Là, c'est 2 litres de coca. Ouais, alors là, il y a un ami qui était en Californie il y a peu de temps, là, il y a un mois, et qui m'a raconté que finalement, maintenant, c'était coca à volonté.
D'accord. Donc voilà, ça c'est pour vous donner donc un petit exemple de ce qui peut se passer dans ce film, mais il n'y a pas donc que cette mise en danger de Morgan Spurlock qui va prendre du poids, qui va... Il y a aussi les effets de façon un peu plus scientifique présentés par des nutritionnistes, par des scientifiques, par... voilà, des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui nous expliquent un petit peu quels sont les risques que peuvent présenter une alimentation à base de McDonald's.
Ce qui me dérange le plus, c'est qu'au cours de ces 20 dernières années, le nombre d'enfants trop gros ou obèses a doublé.
Ce gain de poids entraînera des problèmes de santé tout au long de l'existence. Hypertension, infarctus, maladie de la vésicule, ostéoarthrite, apnée du sommeil, cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon, dyslipidémie, stéatohépatite, rejet de l'insuline, asthme, anomalie des hormones de reproduction, syndrome polycystite ovarien, problème de fertilité et le diabète. Si cet état de fait continue, un enfant sur 3 né en l'an 2000 souffrira de diabète dans sa vie.
Voilà, donc c'est assez éloquent.
Et en plus, on perd la libido, hein. C'est ce qu'il montre dans son film. En plus, il perd la libido, donc voilà.
Donc ça, c'est pour le côté fast-food de la malbouffe qui a envahi le monde depuis quelques temps. Mais il y a donc d'autres documentaires, Notre Pain Quotidien, entre autres, qui était assez intéressant, qui était intégralement muet. Enfin, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de musique narrative autour de ce film. We Feed the World aussi, qui reprenait un petit peu les mêmes thématiques, même des images aussi qu'on voyait dans les deux films, qui sont sortis d'ailleurs tous les deux en 2007, presque au même moment. Un film aussi que vous avez peut-être déjà vu, Mondo Vino, qui était sorti il y a un petit moment. Là, c'est sur le vin, plus précisément sur l'invasion du vin américain sur les sols français.
Ouais. Et l'uniformisation aussi des techniques.
Voilà, les stratégies qu'il y a derrière la commercialisation du vin, les enjeux de suprématie aussi, et les moyens qui sont mis en œuvre pour éliminer la concurrence. C'est là où se posent les... Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse, montrer comment la diversité ou la diversité des choix est mise en danger par certaines stratégies.
Un film tourné en partie dans la région, hein, du côté d'Agnan,
entre autres,
avec le domaine d'Omas-Gassac.
Voilà, donc ça, c'est pour la partie nourriture, alimentation. Et puis, il y a aussi voilà, des films qui sont plus sur... ben, la gestion un peu déplorable des ressources naturelles de la planète, voilà, l'exploitation des ressources qui est faite de manière complètement irresponsable, qui entraîne la pauvreté, qui entraîne la dépossession des terres, et aussi qui entraîne qui stigmatise bien une opposition nord-sud et une exploitation du sud par le nord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu les autres films donc, de cette sélection?
Oui, bon, je pense pas que ça soit forcément dans une forme de dialectique nord-sud, parce que souvent on s'aperçoit que, bon, par exemple, dans le film qu'il y a cet après-midi qui s'appelle The Future of Food, qui parle des OGM, toute la problématique se passe au niveau du Texas et du Canada, parce que Monsanto, il y a la question des brevets sur le vivant, le fait qu'à partir d'un moment, la pollinisation, donc il suffit qu'un OGM tombe dans un champ par le fait du vent, et on peut réclamer des dommages et intérêts. Donc ouais. C'est une problématique qui touche tout le monde et qui pose vraiment la question de comment faire pour protéger aussi la diversité des choses. Donc il y a The Future of Food, où on parle des OGM, les brevets sur le vivant, la biogénétique qui était présentée comme un bien, qui peut être un bien à condition qu'il y ait de l'éthique aussi, un regard éthique là-dessus, voir comment il y a des collisions entre des multinationales et puis des politiciens qui sont aux manettes. Donc il y a ces aspects-là à voir. Après, il y a donc des films que vous avez cités. Il y a un film qui s'appelle « Main basse sur le riz », Parce qu'on s'est aperçu à un certain moment que certains pays avaient pris d'autres pays qui étaient vachement plus pauvres, mais qui avaient des ressources, des sous-sols intéressants, les avaient pris comme greniers. Donc il y a la question des terres arables qu'on vend ou que l'on baille. Certains États vendent des terres pour la production d'exportation, notamment du riz. Donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place un peu partout dans le monde. Pas seulement dans le sud, et moi j'ai tendance à dire que les exploiteurs ne sont pas tous du nord non plus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent des pays émergents, des multinationales indiennes aussi qui s'y mettent, des sud-coréens. Donc c'est vraiment, et c'est un peu l'idée qui sous-tend ce projet, c'est parler d'une chose commune, d'une problématique commune à tous et au plus grand nombre, et qu'on puisse être quand même vigilant, avoir un regard critique sur ces pratiques-là.
Alors tu parles des sous-sols de certains pays qui sont exploités, donc qui sont baillés pour la culture du riz ou du coton, puisqu'il y a un autre film aussi qui parle de ça, La guerre des cotons de Jean-Michel Rodrigo. Et puis il y a l'exploitation aussi simplement des ressources minières. Ça, ce sera dans le film...
Arlie, Deuxième Paris peut-être
Entre autres, oui. Sur l'uranium. Et puis dans Katanga Business de Thierry Michel, alors c'est un documentaire qui était sorti au cinéma aussi, un film de cinéma, où ça s'intéresse à la province du Katanga, c'est au Congo si je ne dis pas de bêtises, qui est exploité par des multinationales chinoises avec la bénédiction du gouverneur de la province. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'une interview que le réalisateur avait donnée au site Synergie BE.
Voilà. Ici, on est dans une Afrique ouvrière, mais aussi l'Afrique des multinationales. L'Afrique de la richesse de son sous-sol, du scandale géologique qui est celui de cette province du Katanga.
En plein cœur de l'Afrique, des forêts tropicales à perte de vue. Et sous la forêt, une terre jaune, grise, rouge, riche en minerais, uranium, cobalt, zinc et cuivre surtout, qui a donné son nom à cette province de la République démocratique du Congo, Katanga. Des minerais convoités par le monde entier, tant ils sont essentiels aux pays industrialisés, et aujourd'hui, indispensables au développement de l'Inde et de la Chine.
Puisque la question était, est-ce la fin de l'époque coloniale ? Je dirais plutôt que c'est un retour d'une nouvelle forme de colonisation économique. Pas politique, mais profondément économique, puisque là s'y affrontent des intérêts stratégiques, géopolitiques et financiers venus, contrairement à la période coloniale, des quatre coins du monde. Et au cœur, évidemment, de cette guerre économique, une guerre sociale, celle traditionnelle du capital et du travail, le capital venant des pays riches et le travail étant celui des Congolais. J'ai jamais fait un film sur des questions économiques, donc pour moi c'était un nouveau challenge. Bon, j'ai fait des films sur le social, sur l'humanitaire, sur le thème du pouvoir, très cinématographique évidemment. Mais ici, il fallait que j'arrive à faire un film de cinéma, hein, pas un dossier socio-économique pour la télévision, un film de cinéma avec des personnages, des destins, des conflits, une dramaturgie sur l'économie. C'était ça qui était intéressant, c'est de faire cette par les images, par le cinéma, par les personnages, par les destins, d'avoir tout d'un coup au cœur de l'Afrique une partie de, mais un jeu d'échecs géopolitique qui se joue entre les grandes puissances, le capitalisme international et les Africains dans leur dans leur précarité, mais aussi dans leur lutte pour leurs droits, leur révolte.
Voilà, donc ça c'était Thierry Michel, réalisateur de Katanga Business, donc sur cette question de l'exploitation des ressources minières au Congo. Donc on a cité un autre film, Arlit, Deuxième Paris, qui est un autre des films programmés dans la sélection, de Idrissou Morakpay. Tu peux nous présenter rapidement le film ?
Ben, en fait, c'est un film qui parle de la région d'Arlit qui avait eu un rayonnement à un certain moment, et puis l'extraction d'uranium a causé beaucoup de dégâts humains, donc il s'est un peu porté sur tous les aspects des dégâts humains. Et puis quelque part, la réalité actuelle a rattrapé un peu cette programmation avec les problèmes d'Arlit, puisque Areva extrait l'uranium maintenant, réextrait l'uranium, et ça pose des problèmes au niveau de la population et de l'environnement. Donc il y a aussi ce péril d'une certaine façon que une gestion non harmonieuse de l'exploitation de ces ressources-là puisse conduire à du terrorisme ou des actions comme ça qui portent préjudice à tout le monde. Donc il y a toujours cette volonté de montrer des documentaires qui essayent d'approfondir ces choses-là, et puis surtout se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas loin. Ce que l'on voit dans toutes ces situations-là, c'est un peu le désengagement de l'État et le marché qui se régule par lui-même, puisque c'est un peu dans l'air du temps et dans ce que l'on dit. Et l'on voit très rapidement que ça a des conséquences désastreuses au niveau humain. Alors est-ce qu'on construit des machines qui détruisent la nature et qui détruisent l'environnement naturel de l'homme? C'est la question qu'on essaye de poser à travers cette programmation.
Alors on va écouter un extrait d'une interview de Idriss Moorakpaï, le réalisateur de Arlit Deuxième Paris. Il était venu à Jindou, c'était dans 2007, Jindou, grand festival à ciel ouvert de cinéma.
Explorer un peu l'histoire de cette ville depuis 68 jusqu'à nos jours. Le travail dans les mines, l'extraction et la vie des ouvriers. Mais aussi, j'ai profité de ma présence dans cette ville pour raconter une histoire qui concerne tout le continent africain. Et l'histoire d'exil, l'histoire des villes donc, qui meurent, l'histoire du désespoir. Donc cette ville pour moi c'était une sorte de symbole, ça pouvait être une ville d'un autre pays africain, et l'uranium, Arlit, tout ça c'était qu'un alibi pour moi. C'est vraiment, je voulais parler de l'injustice sociale qui existe sur le continent africain, mais aussi du rapport. C'est-à-dire essayer de parler un peu du rapport Nord-Sud, de mettre en cause certaines choses sur ce rapport.
Vous pourrez entendre le réalisateur Idriss Moorakpaï donc de ce film Arlit Deuxième Paris avec des extraits de son documentaire. Si vous nous écoutez en direct, ce sera à 13h30 sur Divergence FM pour un sujet de 20 minutes préparé par Pierre-Olivier Boulan de Fréquence Soleil Toulouse dans le cadre des émissions de l'EPRA. Et si vous nous écoutez pendant la rediff, vous n'entendrez pas.
Voilà, donc on va peut-être citer un dernier film avant que je te laisse présenter, voir où c'est qu'on peut trouver les programmes, la programmation, dans quel lieu ça se passe. Le dernier film que je voulais parler, tu disais tout à l'heure qu'il y avait cette position un peu confortable de se dire cette opposition nord-sud, ça se passe loin de chez nous, il y a de la pauvreté, on sait, mais bon, c'est pas sur place, on peut pas faire grand-chose. Il y a aussi un film qui s'appelle Déchets, cauchemar du nucléaire, qui s'intéresse, pour le coup, voilà, à l'exploitation, c'est pas l'exploitation, mais au viol des sous-sols de la Terre, dans lesquels on entasse des déchets nucléaires depuis des années. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film Déchets, cauchemar du nucléaire de Laure Noualat et Éric Guéret.
Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble. Militaires ou civils, les usines nucléaires ont tout un point commun. Elles produisent obligatoirement des déchets radioactifs, qu'elles rejettent en partie dans l'environnement.
On est parti sur cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de solution pour les déchets.
Hanford a été un lieu secret pendant de très nombreuses années. Personne n'avait la possibilité de connaître tous les accidents et tous les problèmes qui se sont produits dans le passé. Par exemple, comment ils ont irradié les habitants?
Ça pollue la mer, ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette.
Il faut voir que, en fait, ces rejets de l'ail, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent.
Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. pouvons-nous leur faire confiance?
Voilà, Déchets, cauchemar du nucléaire de Laure Noilat et Éric Guéret. Donc un autre film qui sera programmé dans cet événement rencontre cinéma documentaire. Alors Souma, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le programme? J'ai pas trouvé le détail des projections. Je sais que ça se passe donc pas qu'à Montpellier. Il y a aussi des séances à Clermont-Lérault, à Ganges, à Lodève.
À Agde aussi. Donc, on travaille beaucoup avec les réseaux des médiathèques. Donc, c'est possible d'avoir le programme au niveau du programme des médiathèques. Et dans les médiathèques, notamment la médiathèque Fellini, qui va accueillir des projections du 3 au 10, au 10 novembre. Ensuite, il y a la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, qui toute la journée du 16 novembre aura des projections. Il y aura des projections scolaires le matin autour de Super Size Me, justement. Et puis après l'après-midi, ça sera des séances ouvertes. Donc on peut, le public peut avoir les informations sur Internet ou sur l'agenda des médiathèques. Ensuite, il y a la Maison des Savoirs d'Agde. Il y a le cinéma Alain René à Clermont-Lérault, où sera diffusé Arlit, deuxième Paris. Il y a la médiathèque Lucie Aubrac de Ganges, où sera diffusé aussi Arlit, deuxième Paris, le 10 novembre à 21h. Et on va finir ces rencontres-là au niveau de l'Odev et du Keilar, où il y aura des projections et des expositions avec de la musique.
En tout cas, il y a un lien internet hein, dans l'article qui concerne cette émission, donc sur le www.divergence-fm.org. Voilà.
Voilà, ben merci Souma d'être venu nous parler de cet événement. Je vous invite à aller découvrir tous ces films, vous enrichir de toutes ces informations, pas forcément très réjouissantes, mais édifiantes.
Je vous remercie.
Alors encore un film documentaire qui sort aujourd'hui, c'est Dracula, réalisé par Sabina Guzzanti, et qui pose la question: pourquoi les Italiens votent pour Berlusconi? La virulence de la propagande, l'impuissance des citoyens, système économique précaire, des jeux de pouvoirs illégaux, ou encore une catastrophe naturelle, autant de facteurs qui, combinés, peuvent expliquer comment la jeune démocratie italienne a été assujettie. Une enquête sous les décombres du tremblement de terre de L'Aquila du 6 avril 2009.
Era da poco iniziata la primavera nella bella penisola, e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre.
Perché penso che
que justement c'est une réponse à la question qui tourmente tout le monde hors d'Italie. Pourquoi vote-t-on pour Berlusconi?
Quella situazione si vede l'assenza dell'opposizione.
Justement on voit la force de l'opposition, l'absence de l'opposition, l'énormité de la propagande et l'énormité de la corruption. Comment la démocratie est contournée avec des lois qui sont faites sans que personne ne sache rien. Et donc l'idée, c'était qu'en racontant l'histoire de ce lieu, avec ce microcosme, on arrivait à voir l'histoire de tout ce qu'il y a autour.
Microcosmo, si potesse avere un'idea del tutto. Nel senso che è un modo anche per dimostrare la potenza della propaganda.
La puissance de la propagande.
Che fa sì che le vittime.
Ce qui fait que les victimes les plus cyniques hein, de cette politique de gouvernement, cela fait en sorte qu'ils ont l'impression d'être les victimes du tremblement de terre, i terremotati, il n'y a pas de mot, donc les victimes les plus heureuses du monde.
La propagande est plus forte de l'expérience stessa delle persone.
La propagande est plus forte que l'expérience même des personnes.
Vedere, poi sono, credo che appunto non. Sono anche immagini che dicono
également des images qui disent plus davantage que une chose à la fois.
Non può riprendere.
Che il fatto di venire dalla televisione e non dal cinema.
Moi je crois que justement le fait de venir de la télévision m'a aidé. Je maîtrise davantage ce genre d'outils que si j'étais venu du cinéma.
Non assomiglia per niente a un qualsiasi reportage che uno può vedere in televisione.
Ressemblant rien à un reportage qu'on peut voir à la télévision.
E le donne dove sono? Tutti gay. Arrivederci, grazie mille.
Voilà, vous verrez Berlusconi donc dans ce documentaire Dracula de Sabina Guzzanti qui était passé à Montpellier à l'occasion du Cinémed.
Voilà, et qui sort aujourd'hui.
Qui sort aujourd'hui. On passe à l'agenda.
Donc rappeler, voilà, ces rencontres cinéma documentaire, combat et liberté documentaire TE2RE qui commencent aujourd'hui jusqu'au 27 novembre 2010. Vous retrouverez les programmes détaillés dans l'agenda des médiathèques de Montpellier et puis sur Internet. Sinon, l'agenda...
Sinon, il y a le mois du film documentaire. Hein, c'est partout, en fait. C'est la 11e édition. Vous allez sur www.moisdudoc. Alors, notamment, il y a beaucoup de films documentaires à Gignac qui concernent la région. Hein, plutôt, c'est des films tournés en région. Voilà, il y a un programme qui va... Du 9 au 26 novembre, donc du côté de Gignac. Allez sur Internet pour trouver les infos.
Voilà, la semaine prochaine, moi je reviendrai, donc j'abandonnerai un peu les documentaires pour vous reparler des documenteurs. Je vous avais promis la fin du dossier que j'avais commencé la semaine dernière. Je vous parlerai de ça mercredi prochain.
Et moi je parlerai du dernier film de François Ozon, vu en avant-première au Cinémed. Potiche, voilà, avec un casting étonnant. On remercie Bruno qui a été à la technique aujourd'hui. On remercie notre invité qui est déjà parti, filière son sandwich. Et puis à noter que après Cinérama, c'est 24 notes secondes avec aujourd'hui un gros plan sur Henri Mancini.
Mancini que vous connaissez sans doute pour le thème mondialement célèbre de la Panthère rose.
Que tu pourrais fredonner, mais on a plus. Si. Voilà, c'était Cinérama. Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Ah, notez, la fin du générique, c'est Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer samedi, mais je n'ai pas encore monté cette interview. Voilà, donc c'était un grand moment avec Patrick Devers et Gérard Depardieu autour de Mozart. Voilà, restez à la fin du générique.
De la part de mon vieux pote Mozart. Quand il a su que t'étais malade, il s'est dit « Je m'en vais lui faire une petite musique. »
Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot.
Cherche pas, c'est le meilleur. Gervase de Brumaire. Te plaît, hein?
Oui, j'aime bien.
Écoute la reprise de la clarinette là.
Bon, mais t'as vu comment il tripote son instrument, le père Gervase. Hein?
Cinérama.
Alors là, chapeau.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.